les podcasts de Vatican News.
Faut-il réformer l'ONU ? C'est un débat qui revient depuis de très longues années. Il est de nouveau posé avec la guerre en Syrie. Le droit de veto invoqué par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité a souvent paralysé l'action de la communauté internationale. Ce veto a particulièrement été utilisé ces derniers mois par la Russie, alliée du régime syrien, qui a bloqué de nombreuses résolutions. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fait lui-même savoir en septembre dernier qu'il souhaitait une vaste réforme de l'organisation, mais cela concerne surtout des opérations sur le terrain qui doivent, selon lui, être au service des plus vulnérables. La réforme des Nations Unies et en particulier du Conseil de sécurité est-elle possible et envisageable ? Nous avons posé la question à Alexandra Novoselov, spécialiste de l'ONU. Elle est chercheure associée à l'Institut international pour la paix à New York.
En théorie, les Nations Unies, le Conseil de sécurité sont réformables. Mais il faut d'abord se poser la question du pourquoi. Et est-ce que un Conseil de sécurité réformé, c'est-à-dire selon les plans qui sont sur la table depuis des années, ça voudrait dire un Conseil de sécurité élargi ? Est-ce que ça permettra de prendre des décisions de manière plus rapide ? J'en suis pas sûre. La question, elle n'est pas là, je crois. Le Conseil de sécurité, il a été conçu pour fonctionner quand l'accord entre ces 5 membres permanents est possible. S'il n'est pas possible, le Conseil de sécurité ne fonctionne pas.
Mais est-ce que, pour autant, l'idée d'une réforme en particulier ou un assouplissement du droit de veto qui a été évoqué, notamment par la France il n'y a pas si longtemps, est-ce qu'il faudrait envisager une réforme de ce droit de veto, l'assouplir peut-être ?
Une réforme voudrait dire changer des textes. Il est peu probable que les détenteurs actuels du droit de veto se départissent de ce droit. Assouplir son mode de fonctionnement, certainement, mais ceux qui l'utilisent le plus, les Américains, les Russes et les Chinois, aujourd'hui, ne veulent pas rendre plus flexible cette utilisation, ou en tout cas dire par avance qu'ils ne l'utiliseront pas dans tel et tel cas.
Est-ce qu'on peut envisager, donc au-delà de la question du droit de veto, dont on a bien compris qu'il était très difficile de la réformer, est-ce qu'un élargissement de ce Conseil est souhaitable et surtout est possible à court terme pour, on va dire, mieux représenter l'équilibre de force internationale ?
Si un élargissement doit avoir lieu, je pense qu'il ne pourra avoir lieu que simplement vis-à-vis du G4, c'est-à-dire Inde, Brésil, Japon, Allemagne, mais il faudra qu'il concerne aussi les pays africains. Et c'est là où, si je puis dire, le bât blesse un peu. Ça fait maintenant plus de 10 ans que l'Union africaine ne s'est toujours pas mise d'accord sur le nom des prétendants à ce siège de membres permanents. Il faut se poser la question, bien entendu, et ça fait partie aussi des éléments un peu de blocage, de savoir si un Conseil de sécurité à 20, 21, voire 25 fonctionnerait mieux. Il serait certainement plus représentatif des grandes puissances et des émergents de ce monde, mais est-ce qu'il aurait un mode de fonctionnement tout aussi efficace ? Ça, c'est une question qu'il faut se poser.
Il y a une espèce de contradiction. L'ONU est le cadre essentiel et indépassable, d'une certaine manière, des relations internationales. Et en même temps, à travers notamment ces blocages du Conseil de sécurité et du droit de veto, prête le flanc aux voix les plus critiques de la communauté internationale. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction ?
C'est vrai, mais en même temps, les mêmes critiques, souvent n'ont pas de véritable solution à apporter, et que aujourd'hui les Nations Unies offrent quand même un cadre dans lequel on peut travailler, mais qui a ses limites, c'est-à-dire c'est l'entente entre les 5 grands. Et ça, il faut l'intégrer. C'est en quelque sorte une soupape de sécurité pour le système des Nations Unies, parce qu'imaginez qu'il n'y ait pas de droit de veto, on voterait des résolutions, mais elles ne seraient pas plus appliquées, puisque des États pourraient encore plus facilement qu'aujourd'hui s'en désolidariser. C'est aussi un état du monde, hein. C'est une image de l'état des relations internationales. C'est pas l'ONU en tant que telle qui va pouvoir régler ça, ce sont les États concernés qui vont pouvoir le faire. Je crois qu'on fait porter aux Nations Unies souvent une responsabilité qu'elle n'a en fait pas. La responsabilité première est celle des États.
Un entretien réalisé par Olivier Bonnel.